Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 mars. Pour parler 2+2, Séoul et Washington prônent une coordination totale sur la politique nord-coréenne. Pyongyang confirme avoir reçu des demandes de contact de Washington. Élection locale partielle, début des inscriptions des candidats. Enfin, chute du nombre de mariages en 2020 sur fond de Covid-19. La Corée du Sud et les États-Unis ont réaffirmé que les problèmes nucléaires et balistiques nord-coréens constituaient leur enjeu commun et sont convenus de coordonner pleinement leur politique vis-à-vis du pays communiste. La déclaration adoptée suite au pourparlers dit 2+2, réunissant les chefs de la diplomatie et de la défense des deux pays, tenue ce matin à Séoul, confirme que l'alliance sud-coréano-américaine constitue l'axe principal de la paix et de la prospérité dans la péninsule coréenne et la région Indo-Pacifique. Petit bémol cependant, alors que le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Jang Eun-young a souligné l'importance des efforts diplomatiques pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen, son homologue américain a fait savoir qu'il allait également examiner des moyens de pression en plus des options diplomatiques. Lors de la conférence de presse organisée à l'issue de la réunion, Anthony Blinken a de nouveau évoqué les droits de l'homme en Corée du Nord, en affirmant que ceux des Nord-Coréens étaient bafoués de manière systématique par le régime de Kim Jong-un. Sur le plan multilatéral, les deux alliés ont souligné dans le texte la nécessité d'une coopération trilatérale avec le Japon et manifesté leur opposition contre tout acte déstabilisant l'ordre international basé sur les normes. Le document ne désigne pas directement la Chine, mais le chef de la diplomatie des États-Unis a critiqué cette dernière pour avoir constamment manqué à ses promesses. Le président de la République a manifesté sa volonté de poursuivre une coordination sans faille avec les États-Unis pour une dénucléarisation complète de la péninsule et la paix permanente dans la région au cours de son entretien cet après-midi avec les chefs de la diplomatie et de la défense américains à la Maison Bleue. Moon Jae-in s'est également réjoui du choix de la Corée du Sud comme l'un des premiers pays qu'Anthony Blinken et Lloyd Austin ont visité depuis l'investiture du président Joe Biden, qui aurait ainsi témoigné de sa ferme détermination pour le renforcement de l'alliance bilatérale. Il a également saisi cette occasion pour saluer le retour du leadership de Washington sur le plan international, en évoquant notamment la récente conclusion de l'accord sur la contribution du pays du matin clair au financement de la présence des GI sur son sol. Enfin, il a félicité la réussite de la campagne de vaccination aux États-Unis, qui contribue rapidement à endiguer la propagation du Covid-19. De son côté, le secrétaire d'État américain a expliqué que ce n'était pas un hasard s'il avait choisi la Corée du Sud comme l'une de ses premières destinations. Blinken a également transmis un message du locataire de la Maison Blanche qui ne se contenterait pas de réaffirmer la solidité de l'alliance sud-coréano-américaine mais souhaiterait la développer et la renforcer encore davantage. Il a également salué le leadership dont Séoul a fait preuve au cours de la lutte contre la pandémie en le remerciant d'avoir accordé de l'aide à son pays au début de la propagation de l'épidémie. Même son de cloche du côté du patron du Pentagone. Austin a lui aussi affirmé que la foi de Washington dans l'alliance entre les deux pays était inébranlable et d'ajouter que cette dernière était d'autant plus importante pour la région Indo-Pacifique que le monde change rapidement. La Corée du Nord est finalement sortie de son silence sur les tentatives de dialogue de la part de Washington avec elle. De fait, elle a confirmé que les États-Unis lui avaient bel et bien demandé un contact dès la mi-février via différents canaux et que la veille du début de leurs exercices militaires avec Séoul, ils l'avaient fait via un pays tiers. Ces manœuvres lancées le 8 mars doivent s'achever aujourd'hui. C'est sa première vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Soon-hee, qui a fait cette annonce dans un communiqué relayé aujourd'hui par l'agence de presse officielle de l'État communiste, la KCNA. Elle y a affirmé que son pays s'était déjà déclaré opposé à tout dialogue avec les USA, à moins que ceux-ci ne retirent leur politique hostile à son encontre et que par conséquent, ils continueraient à faire fi de leurs tentatives en ce sens. La haute diplomate nord-coréenne a d'emblée mis en garde Washington contre un manque de sérieux dans son intention de renouer le dialogue avec Pyongyang. Et sur les propos critiques tenus hier par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken portant sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, le ministère sud-coréen de la réunification a expliqué aujourd'hui que les positions des deux alliés sur ce dossier n'étaient pas différentes. Interrogé sur cette question par un journaliste, un responsable du ministère a donné une réponse en ce sens en faisant remarquer que le gouvernement suivait de très près la situation des droits humains avec une profonde préoccupation et une attention particulière. Et d'ajouter que la position de l'exécutif est celle de redoubler d'efforts avec la communauté internationale pour une amélioration réelle de la situation. Hier, au cours de sa visite à Séoul, le chef de la diplomatie américaine avait dénoncé, je cite, une exaction systématique et étendue perpétrée de la part du régime autoritaire de la Corée du Nord contre ses propres habitants.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Comme prévu, la Corée du Sud et les États-Unis bouclent aujourd'hui l'exercice militaire conjoint programmé pour le premier semestre 2021. Ils les ont lancés le 8 mars dernier et demain, leurs autorités militaires procéderont à un examen post-manœuvre. Il s'agit d'exercices simulés sur ordinateur sans opération sur le terrain. Ils se sont déroulés en deux étapes, la défense puis la riposte. Soucieux de ménager les efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule et pour lutter contre le Covid-19, leur format a été fortement réduit. Même chose pour le renfort des effectifs américains qui y ont participé. On ne comptait en effet que quelques 1000 soldats. Ces manœuvres restreintes n'ont donc pas permis aux deux alliés de tester cette fois la capacité opérationnelle complète. Une deuxième vérification à mener avant le futur transfert de Washington à Séoul du fameux contrôle opérationnel en temps de guerre. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a salué le bon déroulement des manœuvres lors de son entretien hier avec son homologue sud-coréen, So-Hook. Et voici un tout autre sujet. Est-ce un signe précurseur d'une reprise du dialogue? Le chef de la diplomatie japonaise, Toshimitsu Motegi, a répondu à son homologue sud-coréen Jang Eui-yong. Celui-ci lui avait écrit une lettre de soutien le 10 mars dernier à l'occasion du 10e anniversaire du tremblement de terre du Grand Est au Japon. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé avoir reçu la réponse de Motegi mardi sans faire connaître pour autant son contenu. Il s'agit en tout cas de la première communication entre les deux hommes depuis la prise de fonction du sud-coréen le 9 février. C'est désormais définitif. Park Yong-sun est la candidate unique du camp du pouvoir à la tête de l'hôtel de ville de Séoul pour les élections locales partielles du 7 avril. Cette ancienne députée du parti présidentiel, le Minju, a remporté la primaire, cette fois sur sa rivale Kim Jin-hae du parti démocrate ouvert, une petite formation. C'est le résultat du vote des membres des deux formations et du sondage réalisé auprès des citoyens. Dans le bloc de l'opposition, les négociations visant à déterminer son seul candidat sont semées d'embûches. Les délégués de Oseun et Dan Cholsu, les postulants de ces deux forces, le Parti du pouvoir du peuple et le Parti du peuple, ne sont toujours pas parvenus à trouver une entente. Les modalités et le questionnaire des sondages seraient à l'origine de leur désaccord. Les négociations se poursuivront donc jusqu'au 28 mars, la veille de l'impression des bulletins de vote. Et c'est aujourd'hui, à 20 jours des élections locales partielles, que les inscriptions des candidats ont débuté dans un total de 21 circonscriptions. Celles au centre de tous les regards sont les deux plus grandes villes de Corée du Sud. Les électeurs de Séoul et de Busan sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau maire. Les 19 autres postes en jeu concernent les maires et conseillers de petites villes, d'arrondissements et de comtés. Pour s'inscrire, tout candidat doit présenter à la commission électorale nationale de sa circonscription les documents prouvant son éligibilité, l'âge et l'état civil entre autres. Concrètement, il doit être âgé de 25 ans ou plus et domicilié dans sa circonscription depuis plus de 60 jours avant le jour du scrutin, pour ne citer que quelques critères. En l'espace de 24 heures, 445 nouveaux patients contaminés au Covid-19 ont été recensés, dont 124 à Séoul. La campagne de vaccination se déroule sans obstacle majeur. Ainsi, d'après le gouvernement, 80% des personnes figurant sur la liste des premiers groupes à être vaccinés, tels que les employés et les pensionnaires d'EHPAD et des maisons de retraite, ont reçu leur première dose du sérum. Dans ce contexte, un nouveau cas de formation de caillots sanguins suite à la vaccination a été signalé en Corée du Sud. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années, mais d'après les autorités sanitaires, la causalité avec l'injection du vaccin n'a pas été encore confirmée. Avant cela, un premier cas similaire avait été déclaré au cours de l'autopsie d'une sexagénaire décédée suite à son occultation. L'exécutif a conclu provisoirement que cette mort n'était pourtant pas attribuable au vaccin qu'elle avait reçu. Ainsi, les autorités sanitaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre, comme prévu, la campagne de vaccination, y compris avec le produit d'AstraZeneca. Alors que la baisse de la population constitue l'un des problèmes majeurs de la société sud-coréenne, le nombre de mariages, lui aussi, continue de chuter d'année en année. D'après les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques, un total de 214 000 unions ont été célébrées l'an dernier, en recul de 26 000 sur un an. Il s'agit d'une diminution consécutive depuis 2012 et du plus bas niveau depuis la compilation de ces statistiques. Cette tendance pourrait s'expliquer par différents facteurs tels que la baisse de la population trentenaire, l'évolution des mœurs, et le coût élevé des logements et de l'éducation des enfants. En particulier, cette fois-ci, le chiffre a dégringolé de 10,7% en raison du Covid-19. Il s'agit de la plus forte chute depuis 1971. Voilà, c'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.